Ouh yeah! Avec plaisir! Non, 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 je suis bon, moi. Moi, je suis bon, moi, parce que je suis le mail qu'on m'a envoyé, quoi.
We're gonna have fun.
Yes.
Ne me fous pas en l'air, ne me fous pas en l'air, mon âme.
Alfungi Hawaii.
Mais tu vas la recommencer en fait.
Oh, je vais prendre une. Bon, écoute.
Il est bien cet invité, hein. Il a les mots pour dire les choses.
Une extasia. Je vais prendre une extasia.
C'est trouver les mots justes. Mais le temps, mais il trouve les mots justes.
Est-ce que pendant l'intro, je commande la pizza?
Oui, s'il te plaît. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode du Deadbeat Club. On ne sait pas si c'est le dernier de la saison ou c'est le premier de la nouvelle saison. On n'a pas encore décidé.
Le dernier tout court.
On ne sait pas bien. Voilà. Oh, peut-être, on ne sait pas finalement.
Bref, encore un nouvel épisode avec des surprises et autres. Petit disclaimer, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, tout va bien. Vous êtes heureux, vous êtes les chanceux du monde puisque vous allez pouvoir écouter tous les morceaux dont on va passer, parce qu'on va passer beaucoup aujourd'hui. Pour ceux qui sont ailleurs, sur d'autres plateformes, sachez que vous écoutez une version un peu bridée, on va dire, pour des questions de droit d'auteur, mais qu'on vous a concocté une belle petite playlist où vous trouverez tous les morceaux dont on a parlé. Voilà.
D'une manière ou d'une autre, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez entendre une partie de la musique, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sur la plateforme, hein, Frédéric, tu oublies.
Exactement. Il fallait donc dire les choses.
Voilà.
Bonsoir, Kant.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Mais je veux assez bien, ouais.
Alors, donc Kant est là. Georges.
Oui, salut. Alors, pour la pizza, ils ne répondent pas. Il va falloir trouver un autre plan.
On va trouver autre chose. Tracasse. Merci en tout cas de t'occuper de la logistique et du catering.
Toujours un plaisir.
Nous ne sommes donc trois, mais pas que trois, nous sommes quatre, puisque nous avons un invité. C'est un personnage incontournable de la scène vivante liégeoise. C'est une hydre protéiforme multipliant les projets les plus excitants les uns que les autres. Pour lui, je pense, je l'espère surtout, mais aussi pour...
Tu lis un texte,
oui.
On s'entend.
Ouais, c'est une sorte de Rémi Bricca où le lapin serait remplacé par sa bite, mais apparaissant toujours sur son épaule, car on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un démon sur scène, mais c'est un vrai gentil dans la vie. Pour nous, quand on parle de lui depuis quelques mois, et oui, parce que nous parlons souvent de toi, tu es surtout le plus gros enculé de la Terre, avec affection, entre parenthèses.
Je crois qu'on aura l'occasion
d'en parler plus tard.
On aura l'occasion de t'expliquer ça. Bref, nous recevons Jérémy Alonzi. Bienvenue, bonjour et bonsoir Jérémy, tu vas bien ?
Bonsoir, je vais très très bien. Et alors je suis déjà surpris parce que je me rends compte que le surnom de Quentin, c'est Kant. C'est déjà tout un univers. Et voilà quoi, là je suis propulsé dans la sphère, dans une sphère complètement surréaliste.
Incroyable.
Et je suis très très heureux parce que je pense que le surréalisme va être le thème de notre émission ce soir.
Clairement, tout clairement. Donc, on va beaucoup parler de toi, mais pas que, quand on a un peu concocté un épisode un peu différent d'habitude.
Alors, on va quand même un petit peu expliquer l'histoire. On est dans un espèce de questionnement complètement métaphysique. Dans le Deadbeat Club. Et on essaye de trouver un petit peu des nouvelles formules. Et il y a un truc auquel on n'avait absolument pas pensé. Et quand j'ai invité Jérémy il est venu me taper sur l'épaule et il m'a dit on va pas faire comme d'habitude, on va balancer le plus de morceaux what the fuck possible. Et je me disais qu'on tenait un truc en fait.
On va essayer en tout cas, on va voir ce que ça donnera.
On va voir.
Moi,
ce
j'ai
ça
confiance.
Va donner.
Ça fonctionnera pas pour tous les épisodes, mais en tout cas sur celui-ci on va le faire. Et donc on va un peu parler de toi Jérémy, parce que t'es un peu un personnage intéressant.
Oh, merci,
en tout cas sur scène, et je pense dans
vous
la
aussi
vie.
Vous êtes des personnages très intéressants.
Et dans la vie, mais on t'a préparé et on s'est préparé des petits jeux. Donc il y aura à un certain moment des petits jeux un peu rigolos à base de musique. Hein. On reste quand même dans notre cœur de cible et dans notre core business comme on dit.
Ici.
Georges déteste qu'on utilise ces genres de.
Tu vas continuer.
Il a un très mauvais mindset ce soir, je trouve.
Management 2.0, tu vas prendre tu vas prendre un bourre-pif et tu vas te demander ce qui se passe. En
fait. Oh, mais chou, on est au 3.0, mais bon, évidemment, tu n'es pas à jour.
En tout cas, moi, quand on m'a annoncé qu'il allait y avoir des jeux ce soir, parce que je suis au courant quand même qu'il allait y avoir des jeux entre mecs, moi, je pensais que vraiment, on allait s'éclater, les gars. Hein.
Mais c'est ça que je vais pas, c'est assez mal parti.
C'est après la pizza, c'est pour digérer. D'accord, en fait.
Super. On était parti pour faire quelque chose de convivial à la base, donc on va.
On n'est pas obligé, on peut partir.
Pas de problème, que des solutions.
Bon, je vais passer la parole à Kant qui va un peu nous parler, qui va un peu faire parler Jérémy. Ça te va?
Ça me va, il n'y a pas de problème. Bonjour Jérémy, bonsoir.
Bonjour Kant.
C'est déjà là, le décor est planté, c'est nickel. Jérémy, tu fais 7 milliards de trucs.
Mais pas 7 milliards de vues, malheureusement.
Mais pas 7 milliards de vues, ça se saurait. Et je pense que Spotify te donnerait des porte-clés, des billes, des montres, n'importe quoi Spotify. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais ça ne m'a pas empêché de te voir à peu près 32 fois sur différentes scènes. Et pas souvent, deux fois pour le même projet.
On s'est beaucoup vu, c'est vrai, que soit entre des chaises ou sur scène.
Exactement.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est vrai que tu changes beaucoup de projets.
Moi, je suis plutôt je pense que je suis un yes man, tu vois. Dès qu'on me propose quelque chose,
tu dis oui.
Que ce soit arbitre de chaise musicale ou jouer dans un groupe de noise, je dirais oui toujours.
Quoi. Ou te pointer dans un podcast un lundi soir.
Ah, oui, pointer dans un podcast. Oui, tout à fait. Oui, je suis un yes man. Moi, j'aime bien. Moi, tu vois. Et par exemple, il y a. Écoutez, figurez-vous qu'il y a ma filleule qui a 18 ans maintenant. C'est la fille de David Invernol, le batteur de Tropic. Donc maintenant, c'est elle commence à gagner sa vie, elle travaille, etc. Je la connais depuis qu'elle est née. C'est moi qui lui ai percé la première... Enfin, c'est pas moi, mais je lui ai offert ses premières boucles d'oreilles, quoi. Et là, elle vient de m'offrir un piercing.
Alors, il n'est pas visible.
Yes, donc, man. Yes, non, man. Non.
En fait, je vais le faire le mois prochain. Mais le truc, c'est qu'elle a dit « Ouais, moi, j'ai envie de me faire percer le nombril. » Mais elle flippe, je crois. Et elle a envie d'un copain de galère, quoi.
Et donc, tu vas te faire percer le nombril avec elle.
Non, je me suis dit « Je vais me faire percer le téton. » Mais depuis que j'ai cette idée-là, je flippe à crever. Voilà. Donc, du coup, tu vois, le yes man, quoi. Voilà.
Yes okay. Man. Ça n'a même pas de limite, en fait.
Non, de tout, quoi.
On peut clairement abuser de toi, alors, en te proposant des trucs, tu diras oui.
Ouais, si j'aime bien, je dis
donc
oui.
Donc, on retombe sur la question du est-ce qu'on n'était pas dans une soirée conviviale, etc. je ne sais pas.
On peut abuser avec consentement.
Mais ce n'est plus de l'abus, dans ce cas-là. Mais ok, d'accord.
Bon, si on parlait un peu musique.
On était, voilà.
La vie de Jérémy.
Passé pour faire un côté musique. Alors, moi, je te connais tout d'abord en tant que showman. Je t'ai découvert à la présentation du micro-festival. Et on est bien ici, on est bien ici pour ça. Pour la petite histoire, Jérémy, moi, m'a annoncé, parce que je ne le savais pas, mais Georges le savait, que là où on enregistre, là maintenant, à l'heure actuelle, c'est un ancien bureau de chômage.
C'est vrai, je suis venu pointer ici. Hein. Ouais, c'est vrai.
Et t'allais boire des bières après à l'heure
au café? Non, mais j'aime pas la bière, et puis j'étais jeune aussi, surtout. Quoi. Ça remonte, quoi. Il y a très très longtemps. Quoi.
Ouais. Et on n'est plus très très jeune.
Non.
Et donc moi, je t'ai connu en tant que showman, t'es passé comme une comète, comme ça, je n'ai absolument rien compris, c'était au micro-festival, je ne sais absolument plus en quelle année, je pense que c'est l'année...
Un des premiers, non ?
Non, moi je suis arrivé, je pense, au quatrième, un truc comme ça, mais ça, on n'est pas là pour compter les...
Tu fais référence à Colonel Bastard, alors, c'est ça, hein ?
Tu as présenté.
Présenté le micro. Ah oui, quelques années, oui, c'est vrai.
Ah ouais, tu faisais la présentation des groupes.
Toi ou Stéphane Powell, si j'en
Tu allais bien. Du chapiteau au chapiteau, parce qu'à l'époque, il n'y avait que le chapiteau.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai présenté le micro, c'est vrai, ça.
Et donc, moi, c'est là où je t'ai découvert, en fait.
Ah bon
Ben moi, je t'ai connu avant, en fait, avec Colonel Bastard.
Ben, bravo, Frédéric.
Colonel Bastard, c'était un de tes premiers projets. Tu m'as dit que c'était pas le premier. Mais...
Non, parce que le premier, c'était Sissik, en fait. Tout a démarré avec un délire entre copains, où, genre en 1992, quoi, quand on était épris par Nirvana et par toute cette scène incroyable. En fait, avant, j'écoutais genre Guns N' Roses, et puis il y a eu Kurt Cobain, quoi, tu vois. Banana, tu vois. Il y a eu
le Messi.
Il y a eu le Messi, ouais, c'est ça, quoi. Qui nous a fait découvrir plein de groupes, parce qu'il avait sorti à l'époque un split single avec Jesus Lizard. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et alors là, ça a été l'ouverture sur un monde qui était complètement... tu vois, quand tu as quand t'as 16 ans ou 17 ans et que tu découvres ça pour la
première
fois.
Il y a une porte qui s'ouvre et derrière cette porte, il y a plein de choses.
Et après, tu rentres et la porte, ça se referme. Plus
jamais. Laissez-moi sortir. Non, en fait, non, on est bien là.
Et en fait, tu te rends compte que cette voie t'amène vers un univers démesuré. Et puis, au bout de ce chemin, finalement, bah, tu t'ouvres. Au début, tu as beaucoup d'œillères et puis tu t'ouvres à toutes les musiques, quoi, finalement. Mm-hmm.
Par contre, on est quelques millions à cette prime claque avec Nirvana, mais on n'est quand même pas autant que ça à être monté sur scène. Qu'est-ce qui t'a parti de...
Bah, c'est grâce à mon pote Jean-Jacques, en fait. Quoi. Tout, c'est grâce à lui, en fait. Parce qu'un jour, on était à l'école à Soumagne, à l'Athénée Royale de Soumagne, une école horrible, la pire du monde. Quoi.
J'ai donné cours là-bas, c'est horrible, c'est moche.
C'est horrible, 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 vraiment horrible. Bon, bref. En tout cas, moi, j'ai passé des très, très mauvaises études. Il y a plein de gens qui ont certainement passé des très, très bonnes études. Hein. Je veux dire, c'est pas l'école qui est horrible, c'est moi par rapport à l'école en général. Quoi. C'est compliqué.
L'idée d'école, c'est compliqué.
Ouais. J'ai même été à Saint-Luc et c'était même compliqué à Saint-Luc.
Petit, ah ouais, ouais. Pourtant, l'adaptation est quand même...
Et donc, j'ai rencontré Jean-Jacques Labat, le guitariste de Tropic, le chanteur guitariste de Tropic. Et un jour, il m'a invité à venir chez lui et il m'a joué Smell Like Teen Spirit à la guitare. Quoi. Je me suis dit, ça m'a complètement halluciné. Et puis, je me suis dit, si lui sait faire ça, je pense qu'inconsciemment, je me le suis dit, s'il sait le faire, forcément, moi aussi, je sais le faire. Et je vais acheter une batterie. Oui, je serai Dave Grohl, allez, let's go, quoi. Et voilà, tout a commencé.
Et c'est comme ça que ça a décollé, quoi.
Ouais. Et alors, si Jean-Jacques aimait la mécanique et qu'il m'aurait montré comment est-ce qu'on répare une mobilette, je pense que je serais devenu garagiste.
Peut-être.
Mais c'est pas pour rire. Hein,
non,
vraiment,
mais c'est possible.
C'est l'époque où j'étais une espèce de...
D'éponge.
D'antenne qui était prêt à recevoir plein de choses pour être quelqu'un, quoi, en fait.
Ok.
Bah, moi, je trouve que c'était cool qu'il ait fait ce Smells Like Teen Spirit plutôt que de monter un Camino. Enfin, voilà. Parce qu'il y en a plein d'autres hein, qui ont monté des Caminos, par contre. Voilà.
Mais je pense que même si j'avais...
Pour la petite histoire,
si, si j'avais abordé la mécanique, je l'aurais abordé de manière un peu quand même... Enfin, comment expliquer ça?
Tu aurais fait du tuning.
Un peu artistique. Et peut-être que j'aurais fait du tuning. Ouais, peut-être, quoi.
Ouais. Toi, quand t'as fait les deux, t'as monté des Caminos et t'as joué de la guitare.
Ouais. Voilà.
Et voilà ce que ça donne.
Et je roulais carrément en Honda NSR.
Il fait toujours du tuning, non. Franchement, avec son surnom. Là, c'est un peu le tuning du surnom.
C'est parti. Donc, tes projets, le premier, Sissi.
Alors, ouais, le tout premier, c'était avant que ça s'appelait Sissi, que ça s'appelait Molly's Lips, si vous voulez tout savoir, quoi. Ça s'appelait Molly's Lips parce qu'un jour...
T'es sorti avec une fille.
Non, on répétait et puis mon père nous a amené dans un café, je sais pas où, à Barchon ou je sais pas quoi. Et il a dit au mec, mon fils, il joue dans un groupe. Sauf qu'on n'avait même pas de nom.
Même pas de nom. Oh, il s'appelle comment?
Et le mec, il nous a dit, comment vous vous appelez? On savait même pas répondre. Quoi, tu vois. Et donc, après ce choc, après cette émotion un peu violente, on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom de groupe. Donc on s'est dit, on va s'appeler Molly's Lips. Comme le titre de Nirvana, qui est sur Incesticide, je crois. Ouais. Et donc, tout est parti de là. Mais donc, après, on s'est vraiment rendu compte que c'était un peu ringard comme nom. Et on s'est appelé Sissik, comme un titre.
Sissik Steve?
Non, à l'époque, il n'existait pas. Oui, mais c'était un morceau de Jesus Lizard, Sissik, mal de mer, quoi. Et on trouvait ça cool, quoi. Et donc, voilà.
Malaise. Voilà. Donc ça, c'était avec Jean-Jacques.
Avec Jean-Jacques, Ben... Et à l'époque, même Cindy Zarninska, qui était la chanteuse, parce qu'avant, on avait une chanteuse. Je ne sais pas si vous voyez qui est Cindy Zarninska pour les Liégeois.
C'est l'ex-compagne de Hugo que nous avons reçu.
Ok, alors je dois voir qui c'est. Ouais.
Très bien. Et c'était elle qui chantait au début.
Ah, ça, je l'ignorais totalement de le savoir.
Putain, c'est un truc complètement super intime, là, ce que je vous envoie, les gars, quoi. Et après, au fur et à mesure, nous, on avait un petit peu notre idée de faire une musique de cœur, quoi, tu vois. Et avec Cindy, on était plus dans de la pop, entre guillemets, quoi. Et nous, on voulait faire vraiment du noise inécoutable. Si on était resté avec Cindy, on serait devenu connu. Mais on voulait, nous, faire de l'underground, du vrai underground, quoi. Donc voilà, après, on a continué vers cette voie-là, quoi.
Donc des tournées mondiales, 3 albums, 2 compilations, non, pas
alors,
du tout.
Non, beaucoup de démos, 4 démos, je crois.
Quand même.
Ouais, 4 démos et des super démos. Je me souviens que la première démo qu'on a faite, c'était sur un 4-piste Tascam à cassette. Et c'est un sacré album. Je le réécoute encore de temps en temps, d'ailleurs. Il est vraiment...
Il est petit revival.
On t'enregistre sur une Tascam. Table pour
ouais, Tascam. Une Tascam moderne. Mais moi, c'était la Tascam avec des cassettes, quoi. Tu
vois. Est-ce que tous ces morceaux sont encore accessibles sur toile?
Non, moi, je les ai chez moi, mais on l'a jamais partagé. On n'a jamais partagé ça. On devrait peut-être.
Ouais, ce serait peut-être...
Mais enfin, moi, je suis très fier de ce truc-là parce que c'était dans un bête local de répète avec 2 micros et on a fait un disque qui n'est pas dégueu, quoi.
Ouais. Voilà. Donc il faut le sortir à un moment ou à un autre.
Voilà.
Allez.
Peut-être.
Ensuite, Colonel Bastard, c'est ça?
Donc après, il y a eu Sissik, après il y a eu Tropic en fait. En 1999.
Je croyais que Colonel venait avant.
Non.
Ouais, moi aussi.
Colonel
persuadé.
Est venu après. Ouais.
Ok.
D'abord, c'était Tropic parce qu'il y avait une envie de ma part de. Pendant les concerts de Sissik, moi j'allais toujours aussi prendre la guitare et commencer à hurler et faire le débile. Il y avait une envie de ça, mais pourtant Sissik c'était pas vraiment. C'était un peu bizarroïde, quoi. Ça fonctionnait pas vraiment. Donc, du coup, à la Saint-Luc à l'école, parce que j'étais à Saint-Luc avant, à Saint-Luc, on a fait un petit concert comme ça avec David qui ne savait pas jouer de batterie à l'époque, qui a appris à jouer de la batterie avec
Tropic.
C'est vrai.
Comme quoi, on a toujours l'habitude de se tirer des balles dans le pied. Hein, c'est comme
on cherche
un groupe avec un mec qui ne sait pas jouer de batterie.
On cherche un batteur. Oh, si vous voulez, moi, je ne joue pas de batterie. Viens ouais. Ouais,
c'est
nickel.
Ça. Voilà, c'était ça.
Parfait.
Et puis Jean-Jacques est venu par après. Et puis après ça, j'avais encore ce besoin de m'exprimer encore un peu plus librement. Et puis j'ai fait Colonel Bastard.
Colonel Bastard, c'était un projet un peu solo. T'étais un peu tout seul, si je me rappelle
bien. Au début, j'étais tout seul. Au début, c'était One Man Band avec grosse caisse, charlet, guitare. Et après, c'est devenu un peu plus. J'enregistrais les morceaux, donc j'envoyais les bandes, je chantais dessus.
Oui, moi je connais cette période-là au Potelet, notamment un concert épique.
Et puis après, j'ai demandé à des danseurs, je voulais quand même une espèce de folie complètement libre.
Il y avait un peu des paillettes, non? Ou du doré, non?
Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je mettais plein de couches d'habits et puis je me déshabillais au fur et à mesure du concert pour terminer
bien, ouais.
En short à paillettes.
Oui, il me semble bien que je me rappelais du short à paillettes.
Là où Gronibar allait jusqu'à terminer tous ses concerts à poil, en fait. Maintenant, à 45-50 ballets, il le termine, il commence en peignoir et directement avec un string. Mais pendant 20 ans, c'était la marque de fabrique qui commençait habillé. Et là, c'était la bite à l'air, en fait. Mais c'était du grind. C'était encore un cran dessus. Mais j'aime beaucoup. Je suis un petit peu frustré de ne jamais t'avoir vu en mode bite à paillettes sur scène. Voilà. Est-ce qu'il y a des vidéos qui tournent de ça ou...
Non, j'ai... Oui, une petite vidéo que ça n'a pas, mais... Ouais, non, mais sinon, avec Tropic, j'avais l'habitude de faire la bite électrique à la fin du concert.
Oui.
Je mettais un jack sur ma bite et j'ai été scruté Internet pour voir s'il y avait ça, parce que je viens d'avoir un enfant et je ne veux pas qu'il tombe là-dessus. ou que ses amis lui disent hey, T'as vu ton père connard, pédé, tu vois, enfin, je sais pas quoi, mais. Je sais pas quoi, tu vois, les enfants, des fois, ils sont super cruels et je veux pas.
Ils sont super cruels et donc on va juste les laisser arriver sur le DVD de Spit and Speed pour se faire tout à fait une idée.
Oui, de toute façon, ils se font déjà une bonne idée de la vie du groupe.
Voilà, et donc justement, parlons un peu d'Experimental Tropic Blues Band. Moi, c'est le projet que j'ai. C'est un des projets que j'ai le plus suivi, donc cette phrase ne veut strictement rien dire parce qu'il y a d'autres projets que j'ai.
On est habitué avec toi.
Non, mais c'est un projet, en fait, moi, qui artistiquement me parlait énormément, parce qu'il y avait une recherche au-delà de la recherche musicale et de ce que vous faisiez. Au niveau graphique, il y avait tout un univers. Je revois votre première pochette ici. C'est fait avec du tape, un truc comme ça, sur le
sol.
Oui,
c'est ça. C'était Damien Aresta qui avait fait ça avant. Je pense qu'il est toujours graphiste. Damien Aresta de Hit.
Ouais, patron de Loïc Records.
Voilà, c'est ça. Sacré personnage aussi, qui lui... C'était son idée, ça, en fait. Quoi. Une très, très bonne idée.
Ouais, graphiquement, c'est vraiment magnifique.
Associer quelque chose d'un peu plus au-delà de la musique, en fait. Au début, c'était via le graphisme.
Ouais.
Et après, ça, c'est... après, on a voulu, parce que le graphisme, bon, d'accord, quoi, tout le monde le fait avec une pochette d'album. Et après, on a voulu vraiment marquer le coup, que ce soit avec les Belgians ou que c'était un spectacle autour
je, de je remonte à la liste. Là, je suis à 2005 avec Dynamite Boogie. Ouais. Et puis, Hallelujah. Et puis après, il y a Captain Boogie, aussi avec, un peu plus suite.
Jean Purfraise qui a fait, ouais.
Jean Purfraise qui a fait la pochette et un clip. Assez, assez exceptionnel dont on reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure.
Dis-moi lequel.
Il ne sait plus. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il ne s'en rappelle plus et qu'il va chercher. Il va chercher.
Sur Captain Boogie.
Sur Captain Boogie. Ah ouais, pardon. Sur Captain Boogie, qu'est-ce qu'on avait fait je sais pas.
On en reparlera tout à l'heure.
On en reparle, on en reparle.
C'est bien celui-là.
Oui, le The Belgians, c'était quoi ouais, ce délire celui-là. Rappelle-moi c'est un celui-là. Peu The Belgians.
Et puis après, oui, qui suit, suit avec The Belgians. Ouais. Non, c'est Liquid Love. Et puis après, c'est The Belgians en 2014.
Non, 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 c'est d'abord The Belgians, et puis Liquid Love, produit par John Spencer. Et puis après, Spit and Split, et voilà.
Ok.
The Belgians, c'était quoi encore votre délire?
Alors, le délire, c'était que... Attends, non, t'as raison. T'as raison, c'est Liquid Love puis The Belgians parce que
ouais, tout à fait. J'aime pas contredire les invités, mais ouais, moi je vois février 2012 Liquid Love et octobre 2014 The Belgians.
T'as raison.
Parce que j'ai les chiffres.
Parce que oui, en fait, on revenait des États-Unis et tout le monde nous appelait là-bas. On a fait deux tournées aux États-Unis juste pour le délire, quoi. C'était pas du tout un truc à comme on peut s'imaginer. Ah, ils ont fait une tournée aux États-Unis.
Ouais, la tournée génial. Américaine.
Waouh, ils ont réussi. Non, c'était, on s'est débrouillé pour aller aux States et faire une tournée parce qu'on avait envie. Et je me souviens qu'à Chicago, par exemple, on a été payé $1.
$1.
Tu vois, ça résume bien
ce
qu'on a fait.
Après, on parlait du fait de travailler et d'être payé.
On a traversé la frontière et la veille, on était à New York. Et on avait fait la fête comme des fous. Il y avait un mec qui m'avait donné de l'herbe. Et on l'avait fumé, mais j'avais laissé le Pax dans mon sac. Et quand on a traversé la frontière, on nous a dit « Sortez de la voiture, s'il vous plaît, on va contrôler votre bazar. » Et je me suis rappelé...
Tu l'as avalé.
Merde.
Non, je me suis dit « Ok, il y a un Pax vide dans mon sac. »
Vide.
Et je l'ai dit aux autres. On est resté 4 heures, les mains derrière la tête. Hein. Je te jure... Hein. C'est pas pour rire.
C'est un truc à choper une tendinite avec le...
Non, mais surtout avec des gens qui étaient vraiment pas sympas.
Non, ouais, c'est
qui
ça.
Nous insultent. Enfin, pas qui nous insultaient, mais qui nous criaient un petit peu dessus en nous disant qu'on était complètement inconscients et tout ça. Enfin,
un peu menaçant.
Voilà. Avec un Pax vide.
Avec un Pax vide, ouais.
Et avec ou sans gants en latex?
Pas de gants en latex, mais avec beaucoup de...
Manque d'empathie.
Ouais, mais en fait, même tu temps, dis que l'épisode. Parce que c'était des Canadiens. Ils nous ont dit, dans l'autre sens, ça va être gants latex. Avec les Américains, c'est gants latex. Nous, on est cool, quoi. Mais on est quand même resté 4 heures. Quoi.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Belle première aventure aux États-Unis. Et donc, oui, cette production avec John Spencer. C'est vous qui avez été le chercher? C'est lui qui est venu vous chercher? Comment est-ce qu'on chope? Donc, John Spencer, vous connaissez, les gars? C'est John Spencer. Oui, bah oui, mais bon, avec vous, je ne sais jamais. Hein.
Non, mais il ne sait jamais rien.
John Spencer Blues Explosion. Donc, à l'époque, c'était quand même une référence.
C'est toujours une grosse référence.
Oui, oui, mais je veux dire, il a fait des albums, l'album Acme, je pense.
Oui,
j'ai pensé.
Qui a été samplé par des rappeurs.
Oui, oui, tout à
c'est
fait.
C'est vraiment un gros truc, quoi. Donc, est-ce que... Comment ça se passe, c'est que tu vois, quand c'est un petit milieu, le rock, et finalement, il y a un moment donné, tu te mets à faire sa première partie, on parle, on discute, ah, t'es sympa, etc., j'aime bien ta musique, moi j'ai toujours bien aimé. Je me souviens de son passage sur Nulle part ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça.
Il est dispo sur YouTube.
Sur Canal+, qui était un moment, moi qui m'a encore une fois, avec Jesus Lizard, ce moment-là de John Spencer à Nulle part ailleurs, m'a changé ma vie, m'a changé ma vision du spectacle, en fait. Mm-hmm. C'est les élans de liberté comme ça, moi, ça me parle à fond, j'adore, quoi. Et donc...
Et ça te parle, mais ça te marque aussi, ouais, ça t'influence par la suite.
Ouais. À fond, ça m'influence beaucoup. Et puis, en fait, j'ai un peu compris qui j'étais grâce à ce genre d'actes par... Que les autres faisaient, quoi. Des élans de liberté, t'imagines, à Canal+, être aussi, être aussi adapté dans la déglingue, parce que le mec, son live, il dure, au moment où on lui a dit tu vas jouer 3 minutes, son live, il dure 12. Il se retrouve dans le public, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de sono, il n'y a plus rien qui va, il se retrouve sur la table. L'invité, c'est Jackie Chan, tu vois.
Rien à voir.
Jackie Chan, il pète les plombs, il n'en revient pas, tu vois. Et après, il part comme un prince, et ça a marqué, mais plein de gens. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Et putain, quoi, quel... Sans faire chier personne, je veux dire, il a fait du spectacle. Il a fait de la télévision, quoi, le gars. Il était super adapté, quoi. Alors que si jamais on t'invite à nulle part ailleurs, en tout cas, moi... Pour ma part, je me dis putain, il faut être carré, les gars. Il faut
ça, on joue 3 minutes, on va jouer 2,59 histoire d'être sûr.
On va essayer de faire le mieux qu'on peut, tu vois, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Quoi.
Et donc, ce mec, qui t'explose la tête quand tu le vois à la TV, tu te retrouves à jouer en première partie et à lui demander de produire ton album.
Non, mais après, enfin, je lui ai dit, putain, j'ai vu ton truc, la canale, putain, ça m'a touché. Donc, je lui ai dit, comme je vous le dis, quoi, parce que c'était la vérité, c'était la bonne occasion. Ouais, merci, mec, c'est cool. Et puis après, on lui a demandé, ça te dirait ou quoi de produire ? Ouais, oh, j'aime bien votre musique, ok.
C'est aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, donc voilà. Il y a plein de groupes qui l'ont fait, hein. Par exemple Steve Albini qui a, qui a produit le dernier album de Nirvana, par exemple. Ben, ce gars-là, Cocaine Peace, le groupe liégeois, est allé enregistrer 2 disques avec lui. Donc tu vois, en fait, selon moi, pourquoi c'est pas possible ? C'est parce qu'on se l'interdit nous-mêmes. En fait, on s'interdit nous-mêmes de demander.
Mmh. Et donc, t'as osé.
J'ai osé. Et alors, ça me fait penser à un autre truc. Je parle beaucoup. J'avoue.
Mais on était là pour ça. Hein, okay. Donc.
Et c'est pareil avec en 2003, on a fait la première partie des Cramps à l'ancienne Belgique avec Tropic. Donc les Cramps, quoi. Quand même,
ouais, quand même. Vois, ouais.
C'est quand même un groupe méga culte. Lux Interior est mort maintenant. Enfin, je veux dire, c'est devenu un truc immense. Chaque fois que je partage la photo de nous tous sur Internet, elle fait plein de likes.
Du buzz.
Ouais. Et ben là aussi, c'était à l'ancienne Belgique. On était en 2003. Ça faisait 2 ans que le groupe existait. Et on a téléphoné à l'ancienne Belgique parce que Internet n'existait pas vraiment à ce moment-là, tu vois. Donc on a téléphoné, on a dit on aimerait bien faire la première partie. Ils nous ont dit envoyez votre démo, on l'a envoyé par la poste. Et finalement, on l'a fait, tu vois.
Ouais.
On a fait la première partie des Cramps. Ouais.
C'est excellent. Mm. Dernier album en date, Spit and Split. C'était prévu que ça marque la fin du groupe.
Toi, t'es pas au courant.
Il y avait un petit truc dans le nom quand même. Hein.
Mais en fait, ouais, mais non, mais le groupe il est pas fini en fait. C'était encore une fois un délire parce qu'on n'aime pas sortir des disques comme ça bêtement quoi.
Ok.
Il n'y a pas de fin de groupe avec Tropic là. Donc on est le combien là ?
On est le 30, c'est.
On est le 30. Demain on est le 31. Et le 1er, on est en studio. Le 1er novembre, on est en studio.
Ah, mais ça, c'est une super bonne nouvelle.
Mais voilà. C'est ce que j'ai dit off. Donc, moi, j'étais au courant. Donc, là, Jérémy nous annonce que les Tropiques retournent en studio pour enregistrer. Quoi.
Mais c'est magnifique.
Ouais.
Ça, c'est cool.
Moi, je me réjouis super fort. Ah,
voilà. Et je t'avoue qu'on était plusieurs à penser. On s'est dit, bah, les Tropiques, ça se termine.
C'est 2017, quand même.
2017, ouais.
C'est ouais ça, c'est 2017.
Moi, je me suis dit, bah, ouais, le nom est en plus là. Spit and Split, je veux dire. Le documentaire.
C'est ça. Et... Je vais passer de parler du documentaire où il y a avec l'album est sorti un documentaire, bon pas avec l'album parce que le documentaire pour moi est vraiment une espèce d'ovni à part entière qui existe à lui tout seul. On en a déjà parlé, hein, mais cette histoire est juste incroyable. Tu peux nous raconter un petit peu le délire. Ouais, non, mais le délire et le fonctionnement aussi.
En fait, c'est revenu. En fait, à l'époque de The Belgians, donc The Belgians, c'était un spectacle autour de la Belgique. Donc la Sonuma nous a fait confiance, parce que la Sonuma, à l'époque, c'était un truc super poussiéreux. Nous, on voulait mettre à l'honneur, après notre retour des États-Unis, où tout le monde nous appelait les Belgians, tu vois. Et donc, on s'est dit, ah ben putain, on va faire un spectacle sur la Belgique. C'était vraiment une mauvaise idée. Parce que ça, c'était beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Alors, Sonuma nous a donné libre cours. Elle nous a donné tout son catalogue, en fait. On pouvait aller voir dans tout ce qu'il y avait dans la Sonuma gratuitement. Quoi.
Oula.
Mais c'était le bordel. On était tout seul, quoi, tu vois.
Ouais, et en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore.
Le... cette masse.
Ouais, tu te perds là-dedans.
Et ils étaient en train de numériser.
Ouais, c'est ça.
Et c'était n'importe quoi.
C'était le bordel, j'imagine.
Le bordel à fond. Et donc, on a eu besoin d'une. Donc, c'était Julien Henry qui était mis sur le coup. Vous voyez qui c'est, Julien Henry? C'est celui qui a fait, par exemple, un film, un documentaire qui vient d'être passé à la Souvenir, là, qui s'appelle Se cracher pour exister.
J'ai vu passer, mais j'ai pas été voir.
C'est vraiment bien, allez le voir. Donc, Julien Henry qui a fait des clips aussi avec Tropic, ça fait longtemps qu'on travaille avec lui. Bon, bref. Lui, il nous a aidé à faire ça parce qu'à chaque fois que je l'appelle et je lui dis, Julien, j'ai une idée.
Et il fait aïe.
Et il fait, oh putain, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Ouais, ça. Et puis, il sait pas dire non, je sais pas pourquoi. Il dit toujours.
En fait, il est comme toi, en fait.
En fait,
il est comme
une bande de gens qui ont des idées de merde avec que des gens qui savent pas dire non, en fait. C'est ça votre problème.
On y va, quoi. Et donc, il a bien aimé le projet. On est allé à Sonuma, on a eu Open Bar. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que le pauvre tout seul, il n'allait jamais réussir.
C'est impossible à gérer, quoi. Impossible.
Et donc, il a demandé à des potes à lui de venir, dont Jérôme Van de Wattine, qui s'est amené, voilà. Je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, il était super jeune, le petit gars, tu vois, enfin, on s'est directement bien entendu, et il a fait un boulot de dingue, c'est même lui qui nous a suivis après pour faire le VJing avec Pascal Braconnier. Et puis on s'est super bien entendu. Et lui, il avait déjà fait 2-3 courts métrages. Il était là-dedans. Et puis un jour, on était en tournée. On lui a dit, t'as pas envie de venir avec nous pour nous suivre et nous filmer, quoi, pour juste avoir des images et pour faire vivre notre projet aussi. Parce que faire de la musique, c'est compliqué. Il faut tout le temps faire des vidéos, tout le temps faire parler de soi, quoi.
Ouais, il faut exister, quoi.
Voilà, c'est ça. Et alors lui, il est venu, et puis il est resté 2 ans dans le van.
Voilà. 2 ans.
Oui, ça a pris 2 ans. Ouais.
Est-ce que vous avez participé au documentaire ou vous avez juste été...
Le documentaire, il s'est monté pendant la tournée, en fait. Quoi. Parce qu'au début, c'était un court-métrage, et puis après, on se disait, ah ben tiens, si on faisait ça. Non, non, non. J'ai l'impression que ça a été un truc qui a été écrit à plusieurs mains.
Maintenant, un truc empirique comme ça.
Maintenant, lui, il avait quand même le comment est-ce que je veux dire, c'était un peu lui le gourou du truc parce que
le catalyseur, le truc
qui
mélange.
C'était lui qui montait avec un de ses potes à lui, donc c'est lui qui
donnait une direction.
Qui donnait une direction et qui donnait le propos, quoi, surtout. Quoi, ouais. Tu vois, c'est lui qui a réussi à faire ce que c'est, quoi.
C'est de son cerveau malade que tout ça est sorti. Non,
c'est ça, quoi.
Okay. Alors,
moi, je dis attention pour les gens qui nous écoutent. C'est très compliqué d'en parler parce que c'est un super documentaire.
C'est un faux documentaire.
Mais ferme ta gueule, putain. À l'heure.
Là, je couperai.
Non, c'est un film, en fait.
C'est un film. Moi, quand je la première fois... Enfin, bref, non, on n'en parle pas. Mais donc, c'est compliqué.
C'est tabou, ouais.
Donc là, on va faire un gros cut, parce que réellement, je pense que le but, c'est pas de dire aux gens que ça...
Il est encore dispo quelque part, d'ailleurs.
En fait, ce qui est vraiment génial avec ce film, parce que... on peut...
Moi,
je n'ai aucun problème à dire que c'est un film.
C'est dommage, moi, je trouve. Je préférais ça.
Que même moi, maintenant, quand je le regarde, alors que je l'ai vu, mais genre... 200 fois, ouais. Je me fais toujours avoir. Donc, il n'y a aucun problème. Et surtout qu'il faut bien se rendre compte que aussi, ce qu'on a vécu est montré à l'écran. Donc, dire, il y a plein de vérités quand même.
Il y a un moment donné où
je me suis retrouvé avec un transsexuel hollandais chez lui qui nous a fait le cadeau de se masturber devant la caméra de Jérôme, quoi, tu vois. Et ça, c'était de la vérité, par exemple. Et ça se retrouve dedans. Donc, tu vois... Là, j'en vois quand même un truc, je vois bien votre tête.
Moi, je l'ai kiffé à crever du début à la fin.
Tout ça, c'est que le parfait équilibre entre ce qu'il y a de fictionnel et de réalité, et c'est vraiment de la dentelle, quoi. Jérôme a vraiment
bien travaillé. C'est du travail de chirurgien, enfin, c'est incroyable.
Moi, je fais pas le... Y a pas de parallélisme entre le propos... Mais je me suis retrouvé en train de regarder avec les mêmes questionnements que, et il ne faut pas le prendre mal, que quand j'ai vu Borat, où tu sais que dans Borat, il y a des vraies scènes et des scènes qui sont complètement chiquées et des trucs qui sont machin. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est que moi, j'ai regardé le documentaire et à partir du moment tu rentres dans le truc et tu comprends un peu le propos, tu te dis, ben, tiens, tu sens qu'il y a du vrai, tu sens qu'il y a du scénario aussi.
Ouais, c'est
et en fait, il y a un moment, tu sais plus dire. Si, voilà, plus tu avances dans le truc, plus tu rentres dans le scénar, t'as l'impression. Et alors que c'est peut-être faux, parce que le truc du trans, c'est.
Oui, il y a plein de moments vrais, et puis il y a plein de moments faux, en fait.
Ouais, et lui, c'est génial. Et c'est compliqué, en fait, finalement, quand tu revois le truc, parce que j'ai revu une deuxième fois, tellement j'étais énervé de ne pas avoir compris plus vite. Et en fait, il y a des moments où tu te poses la question, comme dans Borat, en fait, où tu te dis, mais putain, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est vraiment arrivé ou c'est...
La différence avec Borat, c'est que.
T'as pas le maillot vert.
Borat, t'entames le film et tu dis c'est faux. Ouais. Tandis que nous, t'entames le film et tu dis c'est vrai.
Ouais.
Et c'est vraiment ce qui est perturbant dans le film. C'est le déclic ne se fait pas en une fois en plus. Il y a un moment où t'as des petites pistes, tu te fais, ouais, mais attends. Et puis, tu as un autre truc qui te raccroche justement à cette réalité. Et du coup, ton cerveau se dit non, c'est bon, c'est la réalité, c'est la vérité, ça s'est passé, c'est comme ça. Et puis, tu as de nouveau des espèces de trucs. Et puis, il y a vraiment un événement, un moment où tu fais bah ouais, mais non. Parce qu'en plus, tu connais tu connais les gens, tu sais que c'est pas leur personnalité, que du coup, ça ne peut être qu'une fiction. Mais franchement, moi, il m'a fallu arriver jusqu'à cette putain de scène pour me dire non, c'est bon. Non, c'est comme, bon. J'ai compris.
C'est comme Voyage en enfer ou je sais plus quoi. Voilà, c'est ce genre de délire, on l'avait évoqué aussi dans la camionnette. Mais par exemple, une petite anecdote, c'est que c'est passé sur BTV, ce film-là.
Ouais. Ouais.
Et moi, j'étais pas là, j'étais en tournée avec Tropic. Et le jour où ça passe, et ma mère décide de convoquer toute la famille.
Venez regarder le film de mon fils.
Mon fils. Mais non, mais si, mais moi je lui ai dit, maman, attends, arrête, non, il faut pas, enfin, bon, bref. Elle a convoqué toute la famille qui s'est mise autour de la télé, genre, ils étaient 15 autour de la télé.
Avec la vieille tante.
Non. Ma tante, ma grand-mère et tout, l'enfer, quoi. Moi, j'étais pas là, hein, mais... Et puis, ça, comme ma mère l'avait pas vu et tout, ça a commencé, Et puis mon oncle, il a dit à un moment donné, je le savais. Je savais qu'il était comme ça. Ma mère s'est mise à pleurer, elle est partie. Tout le monde est parti, sauf ma tante Conchetta qui a tout regardé du début à la fin.
Elle a compris.
Et ben, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si... Je ne sais pas.
Depuis, elle ne te parle plus, donc tu ne le sais pas.
Ben, je suis toujours un point d'interrogation.
Mais ils te regardent tous un peu bizarrement chaque fois qu'ils te voient maintenant.
Mais du coup, je me posais la question, puisque maintenant, on part du principe qu'on peut dire que c'est un fake et qu'il y a des trucs... Est-ce que tu as beaucoup de gens qui sont tombés dessus en n'ayant pas compris?
Ben non, figure-toi, jamais. J'ai eu des gens qui me disaient, pendant le film, j'ai eu envie de te casser la gueule, mais après j'ai compris que c'est un fake, quoi, tu vois, et que voilà, c'était une bonne blague, quoi, en fait.
Ben, super blague, je répète, moi, je la trouve meilleure. Je suis content d'avoir vu sans savoir. Je suis content d'avoir vu le DVD, qu'on m'ait rien dit, tiens, regarde, ça, tu vois, c'est un super documentaire. Et je me suis énervé petit à petit, comme tu expliques, hein, il y a un moment, et c'est pour ça que je suis le gros enculé du monde. Là, pour revenir sur l'intro de Bobby, c'est la première fois qu'on s'est croisés au Microfestival. Moi, je venais de voir le documentaire. Et donc, je me suis dit que j'allais aborder ce pauvre Jérémy qui m'avait de sa vie en disant « Salut, t'es vraiment un gros enculé, le plus gros enculé de la Terre. » Et le pauvre Jérémy qui me regarde en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce con, qu'est-ce qu'il veut ?» Et je venais de voir Spit et Jérémy me prend un peu par l'épaule comme ça, gentiment, parce que tu sens qu'il a un bon fond, Jérémy. Hein.
C'est ce que j'ai dit, ouais.
Avec plein de pitié. Non, mais t'as quand même compris que c'était une blague. Et puis je l'ai rassuré, oui, j'ai compris que moi aussi, je faisais une blague et tout allait bien. Et puis on a bu un
verre. Je dois dire aussi que, par exemple, pendant le tournage, je veux dire, tous les gens qui ont été mis à l'écran ont été mis au courant, en fait, qu'on tournait un film. Donc, il y a des fois des scènes où je peux être, enfin, en tout cas pour ma part, et même les autres, ils ont, enfin, il y a des choses qui n'ont pas été montrées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de rush. Où on s'amusait avec les gens, en fait, et on les mettait dans la confidence, quoi. On leur disait, on est en train de faire un film, vas-y, viens, on déconne. Et donc, du coup, mais pareil avec, par exemple, Suzette, cette trans hollandaise. Bon, on l'a mis dans la confidence, quoi, tu vois. On lui dit, ah putain, on cherche ça pour notre film et tout ça. On a beaucoup parlé, etc. C'était vraiment... c'était pas juste la provoque, là, ce que je dis, parce que j'ai vécu vraiment un moment assez...
un vrai moment avec...
Assez intense avec Suzette. Et qui m'a parlé de sa transformation, qui m'a parlé de sa vie, etc. Et puis qui nous a fait ce cadeau-là parce qu'on cherchait vraiment. Avant, on était sur un plan à Liège, mais qui ne s'est jamais fait.
À Bruxelles, hein,
Non, Suzette, elle est en Hollande.
Hollande, oui, je confonds.
Non, non, alors Bruxelles, toi, tu parles de Rémi Lomos, hein, en fait, ouais.
Ah oui, c'est ça, voilà. Rémi, pardon, excuse-moi. Ouais.
Voilà,
ouais. Qui était quand même sale aussi. C'était,
ouais, 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 mais ça aussi, ah, voilà. Ça.
Et ça, c'est... Enfin, non, non, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou pas.
Mais ça, c'est... Ben, clairement, quoi, tu vois bien que c'est fake, quoi. En fait, oui, c'est tellement magique que t'as l'impression que c'est vrai, que le mec, il sort vraiment du lait de ses seins, quoi. Ça, c'est vraiment dingue, quoi, tu vois.
Ah, c'était vraiment exceptionnel. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, Spit and Split.
Mais donc, il est encore dispo quelque part alors, quand on fait le malin, monte le DVD. Mais je sais pas.
Alors,
si
il y a moyen de l'acheter sur Internet via la plateforme Jaune Orange, je crois. Et sinon, il y a une plateforme sur Internet qui s'appelle Outbuster.
Ok.
Qui, c'est un peu le Spotify du film indépendant. C'est vraiment pas mal, quoi. Et alors, tu peux t'inscrire pendant gratuitement, ça dure 3 semaines, tu as libre cours, tout, tu peux aller voir tout ce que tu veux pendant 3 semaines.
C'est un peu la fête, quoi.
Alors, soit tu payes après, c'est, ouais, pas, c'est pas grand-chose, je crois que c'est moins que Netflix. Et donc,
il est disponible là-bas.
Et donc, il est disponible là-bas. Tu peux le voir gratuitement en t'inscrivant et puis dire non, je ne continue pas.
Ok, on mettra tous les liens sur thedeadbeatclub.be.
Sur le Deadbeatclub.
Sur le site.
Et je voulais juste faire un petit peu le frotte-balle.
Ah, yes.
Donc, il y a le vinyle.
Il est beau, quoi.
C'est le super beau. Bah, c'est un super
c'est mien.
Beau.
C'est mon vinyle, moi.
Mais ça, c'est à moi.
Ouais, t'as le DVD, moi j'ai le vinyle.
Je peux te le rendre.
Ouais.
Et le DVD du film.
Ça crée un
parce que là, c'est marqué. Le hein, film by Jérôme, ouais, Van de Wattin.
Et sans déconner, moi, j'avais une grande passion. Je pense que jusque-là, mon documentaire préféré musical, c'était Some Kind of Monster.
Et Spinal Tap.
Avec les trous du cul de Metallica. J'étais buté pendant tout le truc. Et là, franchement, vous avez, voilà, vous avez pris la médaille d'or.
Vous êtes meilleur que Metallica.
Merci, c'est gentil.
Vous êtes devant Some Kind of Monster.
Mais il y a aussi Dig. Je sais pas si tu as vu Dig.
Oui, mais Dig est très bien. Ouais,
Dig,
mais...
il est bien aussi.
Mais oui, il est bien pour d'autres. Il est dans le top 5 aussi.
Et personne n'a vu Spinal Tap.
Non, mais je dois le voir.
Ah, c'est.
Je veux le voir. Il faut le trouver, en fait.
Le vieux groupe de métal.
Exactement, qui joue, qui crée les amplis. Et je t'avoue que quand je pense que vous avez fait l'ouverture, je pense, du Reflector, ou une des premières, avec le Tropic. Vous avez fait, en tout cas, une des premières, je pense que c'était l'ouverture, je pense. Et je vous ai vu au Reflector. Et vous avez joué très fort. On s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte à ce moment-là que le son du Reflector était très bon parce qu'on sentait que vous alliez très fort mais que ça passait. Et j'ai repensé à Spinal Tap parce que dans Spinal Tap, il crée un ampli qui peut permettre de jouer jusqu'à 11. C'est une, voilà, dans Spinal Tap, il crée l'ampli qui permet de jouer à 11. Ouais. Plus fort que 10. Et ben voilà, est-ce qu'on a tout dit sur le Tropic?
Non, je pense qu'on n'aura jamais tout dit.
À part ce scoop mondial qu'il réenregistre.
Soulignons ce fait.
Ça, c'est
après-demain.
Dingue, ça.
Après-demain. Donc,
Attention. En sachant qu'on ne sait absolument pas quand cet épisode va sortir, on va dire que début novembre, vous.
Ça te met la pression, on est le 30 octobre. Comme ça, plus on sera tard dans la publication,
tout ça, en
plus les gens
savent
que tu procrastines.
Et je voudrais quand même souligner le fait que le Dion, on ne sait pas quand on va ça va sortir début novembre. On est le 30 octobre. Hein. Donc,
c'est après-demain.
Pour moi, le début novembre, c'est du 1er au 15. Donc, on va dire que cet épisode sortira quand vous serez en train d'enregistrer les nouveaux morceaux.
Dans le calendrier de publication, ça se passe dans 2 semaines.
Mais attends, voilà. après ça passe entre les mains du label qui proscracking, je ne vais pas le dire, mais pas mal aussi.
Vous êtes sur quel label maintenant?
On est toujours sur Jaune Orange.
Vous êtes toujours chez Jaune Orange.
Jamais changé, voilà.
Il y a déjà une date de prévue pour la sortie de l'album ou ils vous mettent pas la pression?
Non, parce qu'ils n'étaient même pas au courant, ils ont été au courant avant-hier aussi.
Génial, j'adore.
On ne fait pas de la musique, nous on fait de la musique pour nous. Hein. On ne fait pas de la musique en se disant qu'il va falloir faire un plan marketing et tout ça, nous on s'en fout.
C'est pas de la musique de carrière.
C'est tout. Et en plus, on a été absent parce que Jean-Jacques, donc le chanteur-guitariste, a repris des études de langue, donc on l'a laissé tranquille pendant 4 ans, puisque ça a pris 4 ans et pas 3.
ça arrive même au meilleur.
Oui, et donc, c'est parce qu'il n'a pas rendu son TFE, hein, parce qu'il avait des très très bons points, hein, franchement.
Bravo Jean-Jacques.
Jean-Jacques en anglais, il est quand même sacrément balèze, quoi, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Que
ça va pas sortir demain.
Là, ouais, c'est en ça. Studio. Et mais Jean-Jacques, une fois qu'il a fini, il m'a dit putain, Jérémy, je crois que j'ai pas envie de travailler. Faisons un disque.
C'est la meilleure raison pour faire de la musique, de pas travailler.
Moi, pour moi, si je puis me permettre, c'est ce que j'ai l'impression qui drive toute ta vie, en fait. C'est le fait de faire des choses qui te nourrissent plus intellectuellement, moralement que financièrement. Bon, on a tous besoin d'argent.
Parce qu'on vit en Belgique et on a la possibilité de... En tout cas, moi, j'ai peut-être un peu plus de chance que les autres, ou je ne sais pas. Si quelqu'un entend ça et puis qu'il se dit ben moi j'ai pas eu cette chance là, ben moi j'ai eu la chance de pouvoir c'est délicat ce que je vais dire parce qu'il y en a plein d'autres qui vont râler et tout ça, mais j'ai eu toujours l'impression de jamais travailler moi dans ma vie et de toujours faire beaucoup beaucoup de choses, d'être beaucoup débordé, mais jamais avoir la sensation de travailler en fait.
Ben t'as vraiment de la chance.
Mais j'ai beaucoup beaucoup travaillé et j'ai jamais gagné ma vie en fait quoi.
Enfin, t'as pas toujours la baraque.
Bah, tu vois, ben voilà, moi j'ai une baraque, c'est compliqué de faire des travaux dedans. Putain, elle est pas. Tu vois, voilà.
Ouais,
c'est
compliqué quoi.
J'ai une bagnole, c'est compliqué d'avoir une bagnole. Tu vois, voilà quoi. C'est la réalité, mais par contre le luxe que j'ai, je me sens beaucoup plus riche que tous les autres parce que j'ai pas l'impression de
devoir travailler au sens strict du terme.
Ouais, c'est ça. Je prends toujours plaisir à faire les projets. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est sûr. Quoi.
Tant qu'on en a essayé de se nourrir là, est-ce qu'on ne ferait pas un petit jeu?
Ouais. Allez.
Et alors, on va...
Notre premier jeu.
En fait, on va inverser l'ordre des jeux. C'est juste histoire qu'on sache un petit peu où on en est. Parce que le premier jeu qu'on avait prévu est long. Et on vient de parler longtemps. Donc, on va faire un jeu plus court. Voilà.
Tu c'est toi qui gères, non?
J'annonce mon jeu.
Vas-y, annonce ton jeu.
C'est toi
qui l'as préparé, celui-là.
Ouais, moi, je vous ai demandé de préparer un truc où...
Plein de trucs, pas un ouais, truc. Mais il y en a un
que je vous ai proposé de faire. Et moi, j'ai fait l'inverse, en fait. Moi, je vais vous proposer plusieurs pochettes d'albums.
Non, mais c'est quoi le jeu,
qui n'existent pas. C'est pour ça que je l'explique.
Ah ouais, ok.
Il est en train d'expliquer.
Je vous propose des titres et des pochettes d'albums qui n'existe pas, et dedans se cache un titre d'album qui existe.
Mais ça, on peut pas préparer aussi.
Non, mais c'est l'autre, il a fait ça de son côté.
C'est l'autre.
Donc tu nous proposes des pochettes d'albums, en fait.
Vous proposer des pochettes d'albums. Alors je vais faire le mon petit possible pour pouvoir vous montrer ces pochettes d'albums, parce qu'on peut vraiment les voir. Je prépare 2 minutes. Et je suis à vous tout de suite. J'ai oublié de le faire. J'ai carrément oublié.
Bravo.
Pendant que tu fais ça, moi, je vais meubler, en fait, parce que moi, je n'avais pas très bien compris l'histoire et j'ai préparé un album que je suis allé chercher ou que j'ai inventé. Et à votre avis, est-ce que Hanalu Akbar existe?
Oui.
Oui, certainement.
Oh oui, je sens bien.
Ouais, moi aussi, je sens bien ça.
Ouais, Brutal Sphincter qui a fait...
Le nom du groupe...
Jazz is Feminism et Make Her Grind Great Again.
Le nom du groupe est aussi bon que les titres d'albums, en fait.
Alors, j'en fais un deuxième.
Mais très bon groupe.
T'as vraiment envie d'avoir un t-shirt avec ces deux trucs-là,
Brutal
en fait.
Brutal Sphincter, ouais, non, très bon groupe. Et alors, un autre...
Groupe français, non?
Brutal Sphincter, oui, je pense.
C'est un groupe français, ouais.
Et alors, un autre, c'est... alors là, est-ce que ça existe ou pas? I thought Stalin was cool until I found out he didn't drink. Je pensais que Stalin était cool jusqu'à ce que je découvre qu'il ne buvait pas.
C'est un titre de morceau ou un titre d'album?
Titre album. Ça peut être
en titre de morceau, c'est tout à fait possible.
Toi, Bobby?
Je me dis que c'est le genre de truc que tu aurais pu inventer. Donc, je ne suis pas sûr que, soit vraiment, que ça existe vraiment.
Alors, ça existe, mais ce n'était pas Staline, c'était Hitler. Je pensais que Hitler beaucoup... était cool, jusqu'à ce que je découvre qu'il ne buvait pas.
C'est beaucoup plus marrant avec Hitler.
Et c'était Analkund.
Ah, Analkund, c'est un groupe dont tu nous as déjà parlé, ça, je pense.
On en reparlera plus tard.
Ok, d'accord.
30 ans après, je le sens.
Je suis prêt. Alors, le premier titre d'album... ça s'appelle Always Fucking in My Own Shit. Est-ce que, à votre avis, ça existe?
Oui, c'est vrai. Et oui,
c'est bien sûr, c'est JJ Anil ou un truc comme ça, non?
C'est du folk.
Non, ça n'existe pas.
Oh.
Ça n'existe pas. Le deuxième, après...
C'est ton album.
Je peux vous le montrer.
Tu nous as dit que tu t'avais repris la guitare, donc forcément c'est ton prochain album.
C'est mon prochain album.
Ça veut dire qu'il existe.
Peut-être pas. Alors celle-là, c'est celle dont je viens de parler. Et c'est une pochette factice, Bobby.
Et donc, par l'intelligence,
on va poster tous les liens. Mais j'ai trouvé une magnifique un profil Instagram qui le monsieur il fabrique des pochettes complètement fausses et qui sont du meilleur goût. Hein.
Ouais, vraiment, on est ce que tu m'as montré.
On est dans du raffinement de haut niveau. Et donc, il a été le petit enjeu aussi, c'était de trouver un vrai album qui rentrait plus ou moins dans ce schéma-là. Et ça non plus, ça n'a pas été très très facile. Je vous propose le deuxième pochette d'album, Chou Chou, Next Step, Your Mom's Cunt.
Bien sûr, avec le petit train.
Tu connais.
Je l'ai en 45.
Ah, carrément. Donc ça existe alors.
Next Step, Your Mom's Cunt.
Ah non, c'est pas celui-là. J'ai Chou Chou, je sais plus quoi.
Donc, est-ce qu'il existe à votre avis?
Non, à mon avis, le début devait être sympa et puis après ça part en couille en fait.
C'est ça en fait, ça a été changé. Donc c'est un faux album.
Bon, moi je pars du principe que tout existe parce que si ça n'existe pas,
ça devrait
exister. C'est le moment de le créer. Il y a une brèche, il y a un truc, il y a quelque chose à saisir.
Ça, ce serait marrant de faire des albums à partir de pochettes qui n'existent pas et décider de faire de la musique derrière.
Alors, next album. Il s'appelle, j'ai perdu la page, le premier album, il s'appelle, alors attends, c'est un peu plus compliqué là, Never Trust.
Ça va l'anglais?
A guy who's, after having been a punk, is now playing electro.
Si, je l'ai vu, ça existe. Moi je l'ai vu, ça existe ce truc.
Tu l'as vu.
J'ai vu quelqu'un.
Ouais, ça pourrait être un album de LCD Sound System, ça.
c'est vrai qu'il faut pas leur faire une face B d'LCD.
Arrête avec les rooftops, toi.
Eh bien, c'est un album des Wampas.
Oh merde.
C'est un album des Wampas. Alors, un petit dernier, deux, comme ça. Du coup, on sait que cela n'existe pas, parce qu'il y avait un album qui existait. It's the weekend, time to be a fucking douche.
J'ai envie que ça existe.
J'aimerais bien que ça existe aussi. Et alors, un qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, il s'appelle Autumn Breeze on my completely naked ball sack.
Tu peux traduire ?
Une brise d'automne sur mes couilles complètement nues. Voilà.
Eh ben, je sais pas pourquoi j'imagine de Simon and Garfunkel tu vois, un truc un peu... Et t'es rien comme ça.
On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Donc, je me ferai un plaisir, évidemment, de poster le profil de ce monsieur au goût absolument délicieux et ses pochettes encore plus
monsieur
délicieuses.
Monsieur au goût, il s'appelle.
Il s'appelle Obscured Vinyl.
Est-ce que vous avez entendu cette anecdote assez rigolote à propos des Wampas et de leur dernier album vinyle? Vous ne connaissez pas, donc je pense que c'était l'été passé. En gros, donc les Wampas sortent un nouvel album et précommande, et donc tu peux l'acheter en vinyle. Et en fait, il y a eu une erreur d'impression, et donc les gens qui ont acheté le dernier Wampas, tu vois les fans des Wampas, quoi, tu vois ce que ça peut être, se sont retrouvés avec le dernier album de Kali qui sortait 15 jours plus tard.
Oh, génial. Putain, ça va valoir une fortune sur
Discogs. Ça vaut 120 euros parce qu'il y a quand même, ils seront vite rendus compte de l'erreur. Mais donc, les gens quand même, j'imagine le fan de Wampas qui se retrouve à écouter du Kali, ça doit quand même être très bizarre et je voudrais bien savoir à partir de quel moment il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi, tu vois.
Bah oui. ça devrait aller assez vite.
Et je pense que ça doit aller assez vite. Ben voilà, on va faire une petite pause. En tout cas, on va terminer cette première partie puisqu'on a parlé longuement du tropique avec ce scoop intersidéral.
On a parlé du tropique, ouais.
On a tapé beaucoup du tropique, un peu de Colonel Bastard et de Sissik. Et donc, on fait une petite pause.
On s'écoute un petit truc.
Oui.
Une petite proposition. proposition.
Un petit truc de
on
quoi
termine ce, ce, on termine
ah, ce,
ce
que
on termine...
je veux, putain, les gars, qu'est-ce que vous m'envoyez là? En plus, on est dans une émission What the Fuck où on a décidé de passer les morceaux les plus.
Eh ben, vas-y.
Dis-toi que ce qui est bien, c'est que là, on peut couper le truc et puis tout ça d'un okay. texte et qu'au moment après que je dise, Jérémy, qu'est-ce que tu as envie, paf, arrive directement la réponse. Eh ben, tiens.
Ah ben, alors regarde. Alors,
non, Patrick Bruel, c'est pas possible.
Non, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on écoute.
De la playlist. Ah,
attends,
donc.
Parce que je sais pas lire. Bah. Habanera from Carmen de Leona Anderson.
Qu'est-ce que c'est que
Habanera
ça?
Qui est un morceau que je mets tout le temps en DJ set et qui est quand même sacrément spécial. Et c'est, je sais pas quoi, je me suis pas renseigné, mais par rapport à mon ressenti, je dirais que c'est une actrice ou quelqu'un qui chante Carmen de manière un peu surprenante.
Ok, bon, on termine cette première partie là-dessus et on revient avec la suite de la carrière de Jérémy et d'autres jeux.
Cha 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 c